Radio Vatican, France et Afrique.
Merci de votre fidélité à l'écoute de Radio Vatican et bienvenue à cette édition. Le pape François se rendra du 26 au 29 septembre à Luxembourg et en Belgique. L'annonce a été faite ce lundi par la salle de presse du Saint-Siège. Le pape qui a reçu en audience ce lundi les responsables de l'université Loyola de Chicago aux États-Unis en pèlerinage à Rome. Détail à suivre après les titres. Au Gabon, l'archevêque de Libreville a tenu dimanche une catéchèse au confirmant à l'occasion de la fête de Pentecôte, insistant sur le rôle de l'Esprit-Saint dans la vie du chrétien. L'actualité de l'Église qui nous conduira également au Tchad. L'Union africaine a condamné dans un communiqué la tentative de coup d'État en République démocratique du Congo dimanche et appelle au calme. Nous y reviendrons dans l'actualité africaine qui nous conduira également en Guinée. L'association Talitakoum célèbre 15 ans d'existence. À cette occasion, des membres venus des différentes parties du monde sont rassemblés à Rome pour un moment de réflexion en vue d'orienter les activités de cette association. Détails à suivre dans la dernière partie de cette édition avec notre invité du jour. Voilà pour les titres.
Radio Vatican, France et Afrique, Jacques N'Gol.
La salle de presse du Saint-Siège a officialisé la mi-journée de lundi le programme du voyage apostolique du pape François au Luxembourg et en Belgique au mois de septembre. L'évêque de Rome se rendra dans le Grand Déchu et dans le royaume belge du 26 au 29 septembre. Des précisions de Delphine Allaire.
Les deux pays francophones du Benelux accueilleront le pape de 87 ans qui sera à peine rentré il y a moins de deux semaines d'un périple asiatique de 12 jours. Le programme détaillé sera publié ultérieurement, mais François avait déjà évoqué publiquement le voyage en Belgique en décembre dernier, une nouvelle qui avait réjoui les 13 évêques du plat pays. Selon l'épiscopat, l'occasion est le 600e anniversaire de l'Université catholique de Louvain, francophone, et de la KU Leuven, néerlandophone. Dans ce royaume qui finance les cultes, le pape visitera une Église sécularisée, marquée par la crise des abus. Les évêques belges ont récemment été auditionnés dans le cadre d'une commission parlementaire spéciale. Comme en France voisine, toutefois, une nouvelle vitalité spirituelle s'y dessine. Le nombre de catéchumènes a bondi cette année, 362, le double d'il y a 10 ans. Belgique, où François a nommé l'année dernière un jeune archevêque de 54 ans pour le diocèse de Bruxelles-Malines, Mgr Terlinden. Au Luxembourg, 600 000 âmes, François ira à la rencontre d'une église européenne, frontalière. L'archevêque de la capitale, le cardinal Ulrich, est un proche du pape. Il est même rapporteur général du synode sur la synodalité, dont la deuxième session commencera à Rome trois jours après ce voyage. Grand-duché où Jean-Paul II s'était rendu, combinant aussi cette étape avec la Belgique, que le pape polonais a visité en 1985 puis 1995.
Lors d'une audience accordée lundi 20 mai aux responsables de l'université Loyola de Chicago, le pape François a souligné la nécessité de disposer d'hommes et de femmes prêts à travailler pour que le monde trouve la paix. En cette période de changement rapide et de défis de plus en plus complexes, le rôle des universités est crucial, a souligné le Saint-Père. Cultiver la curiosité intellectuelle, l'esprit de collaboration et de sensibilité aux défis d'aujourd'hui en laissant émerger l'héritage de Saint-Ignace, tel est l'encouragement adressé aux dirigeants de l'université américaine par François, assurant que nous avons besoin d'hommes et de femmes prêts à mettre leurs compétences au service des autres, à œuvrer pour un avenir où chacun pourra développer ses capacités et vivre dans la dignité et le respect et où le monde pourra trouver la paix. Au titre des nominations, le Saint-Père a nommé Mgr Ignace Bessi Dogbo, jusqu'ici archevêque métropolitain de Korogo, comme archevêque métropolitain d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il succède au cardinal Jean-Pierre Coutois, dont le pape a accepté la démission de la gouvernance pastorale ce lundi 20 mai. Mgr Bessi Dogbo a été nommé évêque du diocèse de Kachola le 19 mars 2004 et reçoit la consécration épiscopale le 4 juillet de la même année. Président de la conférence épiscopale entre 2017 et 2023. Depuis 2017, administrateur apostolique ad notum sancte sedis de l'archidiocèse métropolitain de Korogo, puis confirmé en 2021 archevêque métropolitain de Korogo, charge qu'il a occupé jusqu'à ce jour. Rendons-nous au Gabon où Mgr Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville, a tenu dimanche 19 mai, à l'occasion de la solennité de la Pentecôte, une catéchèse devant quelques centaines de chrétiens qui ont reçu le sacrement de la confirmation. Le prélat a insisté sur le rôle de l'Esprit-Saint dans la vie du chrétien. Chidorique Machima.
Dimanche du Pentecôte, Mgr l'archevêque de Libreville, Jean-Patrick Ibaba, a offert une catéchèse inspirante aux 292 confirmants des paroisses Cœur Immaculé de Marie, Notre-Dame des Apôtres, Saint-Jean-Baptiste et quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II. L'archevêque a centré son enseignement sur la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans la Bible et dans la vie des chrétiens. Mgr l'archevêque a commencé par rappeler la présence du Saint-Esprit dès le début des Écritures, soulignant ainsi son rôle dans le récit de la Genèse où il planait sur les eaux. Il a également évoqué l'action du Saint-Esprit à travers les prophètes tout au long de l'Ancien Testament. Passant au Nouveau Testament, l'archevêque a souligné l'œuvre du Saint-Esprit dès l'Annonciation selon l'annonce de l'ange Gabriel sur le Saint-Esprit qui a couvert la Vierge Marie de son ombre. Il a ensuite rappelé la promesse du Christ faite à ses apôtres avant son départ de ce monde. Cette promesse est accomplie lors de la Pentecôte, fête que l'Église célèbre pour commémorer le don du Saint-Esprit. Ce don, a-t-il précisé, est destiné à conduire l'Église vers le Père. Mgr l'archevêque a insisté sur le fait que le Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite, mais qu'il est offert à tous les hommes. La cérémonie de confirmation a réuni les jeunes confirmants, leurs familles et les membres des paroisses mentionnées, marquant un moment de profonde spiritualité et d'unité communautaire. Pour Vatican News, Chidoric Massima, depuis Libreville.
Au Tchad, la Caritas du diocèse de Pala a organisé du 16 au 17 mai dernier son assemblée générale, une occasion pour les membres de réfléchir et d'échanger sur les difficultés auxquelles elle fait face. Suivons la correspondance d'Edouard Takadji.
Le diocèse de Pala, dans la province des deux Mayo-Kiobi, reste un des diocèses du Tchad confrontés à d'énormes difficultés. Les conflits intercommunautaires, l'enlèvement des personnes contre rançon, les injustices de tous genres sont le lot quotidien de cette population, en grande majorité des fidèles de cette église famille de Dieu qui est à Pala. La mise en place de la Caritas diocésaine vient ainsi répondre à certaines préoccupations des fidèles, mais aussi chercher à trouver des solutions à ces problèmes. Mgr Dominique Tinodi, évêque du diocèse de Pala, récite le chapelet de ces difficultés.
La famine liée au changement climatique et à l'appauvrissement des sols, l'insécurité, l'exode, le manque d'eau potable, le manque de structures d'éducation, les dévastations des champs, ces problèmes mérite une synergie d'action et de solutions.
L'évêque de Pala revient sur la mission de la Caritas diocésaine.
Servir les pauvres et tout d'abord les plus pauvres parmi nous. Ceux et celles qui ont perdu leur terre. Caritas doit refléter le visage aimant du Christ qui apporte secours et réconfort, respect et reconnaissance. Le service de la Caritas est particulièrement beau.
Cette assemblée générale, faut-il le préciser, a regroupé les membres des Caritas diocésains venus de toutes les paroisses, secteurs, vicariats et communautés que compte le diocèse de Pala. N'Djamena, Edouard Takadji, Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, le nouvel archevêque de Kananga, Mgr Félicien Tamboué Kassembe, a officiellement pris possession canonique de son siège métropolitain dimanche 19 mai 2024 lors d'une messe présidée par Mgr Marcel Outembi Tapa, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la Chenko. S'adressant aux fidèles venus nombreux à cette cérémonie, Mgr Outembi a invité les uns et les autres à se laisser guider par l'Esprit Saint, à l'instar des apôtres à Pentecôte, à bannir les œuvres de la chair, notamment le tribalisme, les divisions, à ouvrir le cœur aux autres dans l'unité et l'amour du prochain pour construire une société juste et la cohésion sociale, gage du développement du peuple de Dieu qui est dans l'archidiocèse de Kananga. Restons toujours en République démocratique du Congo pour ouvrir la page de l'actualité sociopolitique sur le continent africain. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné fermement la tentative de coup d'État dans ce pays que l'armée a annoncé dimanche avoir déjoué. Il a affirmé avoir suivi avec une vive préoccupation les événements dans un communiqué dimanche soir, mais dit se féliciter de la maîtrise de la situation annoncée par l'armée. Il a également dit se réjouir que l'ensemble des responsables des institutions républicaines soient sains et saufs, condamnant tout recours à la force pour changer l'ordre constitutionnel dans tout État africain, quel qu'il soit. En Guinée, on s'achemine vers une nouvelle crise politique face à l'annonce du non-respect du chronogramme de la transition par les autorités militaires. Les partis politiques s'organisent. Des appels à manifester seront lancés dans les mois à venir, à en croire une coalition de partis dirigée par l'ancien Premier ministre Sélou Dalein Diallo. Les précisions avec notre correspondant Emmanuel Milimono.
C'est le Premier ministre qui le dit et martèle, le calendrier du retour à l'ordre constitutionnel tel qu'il a été défini ne sera pas respecté. Pourtant, la junte l'a elle-même négocié en 2022 directement avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre l'avis des partis politiques. L'ensemble des organisations sociopolitiques était donc obligé de s'y plier. Seulement, au-delà de la déclaration du chef du gouvernement, aucune condition matérielle n'a été réunie à date pour le respect de ces chronogrammes. Dans une déclaration publiée ce samedi, l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, dirigée par l'ancien Premier ministre Sélou Dalein Diallo, prévient que tout glissement de calendrier aura pour conséquence directe la perte de légitimité de la junte à conduire la transition. En cas de refus de la junte d'accéder à cette revendication, l'ANAD exigera la mise en place d'une transition civile pour organiser le retour à l'ordre constitutionnel, ajoute-t-elle. Cette plateforme politique a demandé au peuple de se tenir prêt pour les manifestations de rue. Et parallèlement, le même jour, une autre plateforme de la société civile s'est constituée. Il s'agit de la Coalition nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Elle porte les mêmes revendications que les partis politiques. Emmanuel Milimono Conakry pour Radio Vatican.
Les 17 et 18 mai 2024 s'est tenu à Rome un colloque sur l'humaniste français Jérôme Lejeune et les défis de la bioéthique du 21e siècle. Participant à ce colloque, l'abbé Apollinaire Kibaka Chikongo, prêtre du diocèse de Mbujimayi en République démocratique du Congo, revient dans une interview sur les objectifs de ce colloque, ce qu'il y a apporté et ce qu'il comptait ramener dans son pays comme fruit de ce colloque. On l'écoute.
Il y a donc des questions de bioéthique qui se posent dans la société occidentale, qui ne sont pas encore les nôtres, à cause du niveau de développement de la médecine et de la recherche chez nous. Je viens d'abord en quelqu'un qui vient écouter. Je viens aussi en quelqu'un qui est témoin d'une culture de la vie, de l'amour de la vie, parce que malgré tous ces problèmes qui nous affectent aussi du point de vue de la culture de la mort, l'Afrique reste après tout le continent le plus généreux par rapport à la vie. Chez nous, on aime beaucoup la vie. On partage la vie, mais comme je l'ai dit dans ma conférence, dans les actes du colloque sur la culture de la mort face à la culture de la vie en Afrique noire, il nous faut aussi développer toute une mystique de la vie qui va au-delà des alcôves conjugales. Pas seulement aimer la vie, la donner dans l'intimité, mais aussi il faut accompagner cette vie-là. Parce que malheureusement, l'Afrique noire est le continent où la distance et le temps à parcourir entre le ventre de sa mère et le ventre de la terre, c'est une distance beaucoup plus courte. Pourquoi ? Parce que notre amour de la vie n'est pas accompagné par une éthique de la vie, au sens de soins à prendre par rapport à ce corps. Nous sommes le continent où la vie est soumise à la misère, la vie est soumise à l'insécurité. L'espérance de vie chez nous, de cette vie que nous aimons, cette espérance de vie est très courte. Je suis donc venu comme témoin du continent qui aime la vie, qui donne la vie, mais aussi témoin du continent où la vie est la plus exposée, la plus fragile.
Qu'est-ce que vous comptez ramener ?
Ramener le témoignage de Jérôme Lejeune, qui n'est pas seulement ce généticien, ce grand savant, mais qui est un grand humaniste chrétien. C'est quelqu'un chez qui la science, la foi et l'éthique vont ensemble. Alors je me suis dit, il va falloir qu'en travaillant avec des étudiants de médecine et de santé publique et des sciences infirmières, on puisse faire connaître pas seulement son travail scientifique, mais sa pensée humaniste. Parce que là, on a un grand scientifique qui est aussi un grand homme qui respecte la vie, qui a le sens de la dignité de l'être humain. Et donc, faire connaître la pensée de cet homme, je pense que c'est l'un des devoirs que je ramène chez moi au Congo.
Abbé Apollinaire Kibaka Kikongo, prêtre du diocèse de Mbujimayi en République démocratique du Congo, est professeur d'éthique et recteur de l'université de Mbujimayi. Il était interviewé par Marie-Josée Mwando Boabolo. Plus de 200 religieuses de tous les continents sont réunies du 18 au 24 mai à Rome pour la deuxième assemblée générale de Talitha Koum. L'association engagée dans la lutte contre la traite des êtres humains est présente dans 90 pays. Cette année, elle célèbre ses 15 ans d'existence depuis sa fondation en 2009 par l'Union internationale des supérieurs générales. Le thème choisi pour cette assemblée est « Cheminer ensemble pour mettre fin à la traite des personnes », transformée par la compassion en action. Nous recevons dans cette édition notre invitée du jour, sœur Franceline Hien, religieuse des nationalités burkinabées en mission à Alger, la capitale algérienne. Elle nous parle de son expérience en tant que membre du réseau Talitha Koum, travaillant aux côtés des migrants en Algérie. On l'écoute.
J'ai connu Talitha Koum quand j'étais étudiante à Nairobi et avec Heart Kenya, où je me suis engagée à collaborer. Mais une fois arrivée en Algérie, on ne parle pas de Talitha Koum. Mais j'ai rejoint le réseau depuis le mois de septembre parce que je pense que ce que nous vivons comme action, même si c'est vécu dans la discrétion, et joindre le réseau Talitha Koum qui a ce cœur ouvert vers cette situation de nos frères et sœurs qui souffrent sur les routes, ça a été vraiment un appel pour moi de joindre Talitha Koum et de donner ma contribution là où je suis, même si c'est peu.
Donnez votre contribution. Et quelle est cette contribution, ma sœur?
Pour le moment, comme j'ai dit, j'ai eu une formation le mois de septembre concernant Talitha Koum. Et quand je suis retournée dans mon diocèse, j'ai essayé d'en parler à l'Union des supérieurs généraux pour qu'on puisse avoir un cœur ouvert à cette situation. Pour moi, ce que je vis concrètement, c'est vraiment être avec mes frères et sœurs dans la discrétion. Il y a une paroisse où elles sont fréquentées, je vais de temps en temps les rencontrer. Et aussi, je privilège la visite des prisons, que là, l'Église a autorisation de le faire. Donc ça, je le vis de façon ouverte. Mais les autres actions, c'est vraiment dans la discrétion.
Donc on peut comprendre que la migration constitue une forme de traite assez sérieuse pour l'Algérie.
Une forme très sérieuse en Algérie, sous forme d'exploitation sur les chantiers de construction et les travaux domestiques. Puisqu'ils arrivent de l'Afrique subsaharienne, ou de partout, disons, en attendant de traverser, pour gagner de l'argent, envoyer aux parents qu'ils ont fait les promesses, et avoir cet argent pour pouvoir traverser. Donc ils sont engagés sur les chantiers de construction. Et puisque le pays n'accepte pas cette situation, la police est très compliquée là-dedans. Et sur des chantiers, on peut les ramasser pour les rapatriement vers les frontières. Et de là, quand on écoute leur expérience, il y en a qui vont faire 3 mois, 2 ans, 1 an pour revenir sur Alger par la route. Donc, puisqu'on les jette au désert, il n'y a rien. Il y en a qui ne parviennent pas à revenir ou qui cherchent à rejoindre les autres pays frontaliers en attendant de traverser.
Et ces migrants, vous avez dit qu'ils proviennent de l'Afrique subsaharienne, la plupart. Quels sont les pays les plus représentés?
Les pays les plus représentés en Algérie, nous avons le Nigeria, nous avons le Congo, nous avons, disons, l'Afrique subsaharienne, les Maliens, les Camerounais. Camerounais et Maliens, Ivoiriens, c'est vraiment les plus. Les Nigériens sont là, c'est sous une autre forme de trafic. Les Nigériens, même les enfants sont là, mais personne n'en parle. On les voit dans les rues, partout, ils demandent, mais personne ne touche ce point. Mais au moins, les ceux de l'Afrique subsaharienne venant du Mali, Cameroun, on sait que c'est vraiment, et ils sont ouverts à la migration et ils sont là, ils font ce qu'ils peuvent pour gagner leur vie en attendant.
Est-ce que quand ils viennent en Algérie, c'est pour s'installer ou bien c'est en vue de traverser pour aller ailleurs?
Normalement, leur objectif, c'est de traverser. Mais puisqu'ils sont sans papier, ils n'ont pas les possibilités de traverser immédiatement. Donc, ils sont là en même temps pour se chercher, trouver des moyens économiques pour d'abord aussi répondre aux besoins. Puisqu'ils viennent aussi avec l'idée d'aider la famille. Et quand on les écoute, c'est surtout ça qui les préoccupe. Et quand ils gagnent un peu, ils doivent partager entre leur vécu ici et la famille qui les encourage à partir. Donc, il y en a qui sont là pour passer, mais il y en a aussi, comme quand ils ne peuvent pas passer, ils sont là, ils sont installés.
Sœur Francéline Yen, de nationalité burkinabé, est religieuse de la congrégation des sœurs missionnaires Notre-Dame d'Afrique en mission à Alger, la capitale algérienne. Elle était au micro de Stanislas Kambashi.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Auditrices, auditeurs, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de notre programme présenté par Jacques Ngol. Merci de l'avoir suivi avec attention. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.